Lecture du livre des apôtres, des actes des apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem. Depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche, la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Célote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur.
J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière, mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face.
J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur.
Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi.
Acclamons la parole de Dieu. Louons à toi, Seigneur.
Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. L'évangile que nous avons entendu aujourd'hui fait partie du chapitre 17 de l'évangile de saint Jean et cette prière est appelée « Prière pour l'unité ». Nous entendons Jésus y dire « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ ». En langage biblique, la connaissance engage toute la personne, ce qui signifie qu'on ne connaît vraiment quelqu'un que lorsqu'on ne fait plus qu'un avec lui. Connaître, c'est donc communier, être en parfaite communion avec Dieu. D'une part, nous avons donc dans ces mots de Jésus un résumé, en peu de mots, de sa mission, qui est d'introduire ses disciples dans l'intimité de Dieu. Et nous comprenons donc que la vie éternelle consiste tout simplement à tendre à une union avec Dieu. Jésus continue dans sa prière. « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Voilà, si vous avez été attentif, on a entendu plusieurs fois le verbe « donner ». Connaître, frères et sœurs, d'autre part, c'est aussi donner. Donner, mais aussi recevoir et recevoir de Dieu. Jésus, par l'exemple de sa vie au milieu de ses disciples et la manière dont il est en relation avec son Père, défini dans ses propos, on peut dire la pédagogie par laquelle on entre en union avec Dieu. Oui, il a utilisé 5 verbes d'action. Donner, reconnaître, garder, recevoir et croire. Donner, reconnaître, garder, recevoir et croire. Ces verbes d'action témoignent que la vie éternelle résulte donc d'une double démarche
qui est celle du don, mais aussi celle de l'accueil. Dieu qui donne et les hommes qui accueillent. Autrement dit, Dieu qui demande que nous puissions collaborer, bien sûr, au don qu'il nous fait. Jésus formule ainsi clairement comment sa mission engage aussi ses disciples. Parce qu'au moment où il part vers le Père, il passe le flambeau. Oui, il nous a tout donné en nous introduisant, bien sûr, dans l'intimité de son Père. À nous maintenant de manifester comme lui le nom du Père en introduisant d'autres personnes dans cette intimité de Dieu. Oui, 5 verbes d'action qui montrent que cette mission aussi requiert, on peut dire, l'engagement de nos personnes dans l'entièreté, bien sûr, de nos existences. La vie éternelle, nous l'aurons compris, ce n'est pas simplement un concept. C'est un mode de vie avec Dieu et aussi avec les autres. Les faits et gestes des apôtres et de leurs compagnons que nous rapporte Saint-Luc dans la première lecture sont pour nous source d'inspiration au moment où ils sont dans l'attente de l'Esprit-Saint, tout comme nous. Ils se posent en modèle pour nous par leur manière de vivre. Oui, en attendant la réalisation de la promesse du Saint-Esprit, Saint-Luc écrit qu'ils se rassemblent, ils se tiennent ensemble, prient, vivent ensemble, ne se quittent pas, ne se dispersent pas, vivent en communauté. Une vie ensemble, avec tout ce que cela suppose de partage, de dévouement, de tolérance, d'amour et d'ouverture aux autres. D'ailleurs, Tertullien, un des premiers écrivains chrétiens, témoigne qu'en voyant les chrétiens vivre ainsi, les païens ne pouvaient s'empêcher de s'écrier « Mais voyez comme ils s'aiment !» Oui, une vie d'union les uns avec les autres pour être en union avec Dieu. On peut bien penser, frères et sœurs, que si dès les premiers moments de l'Église, il y a eu une grande adhésion des personnes au Christ, c'est en raison de la nouveauté du concept de vie et surtout de sa crédibilité manifeste. D'ailleurs, la deuxième lettre de Pierre nous donne raison parce qu'elle s'adresse à des chrétiens qui sont persécutés et la cause est bien simple. Leur mode de vie portait tellement de fruits dans la société que ceux, les partisans d'une vie laxiste, en étaient venus à être inquiets au point de déclencher une persécution. On peut lire en effet quelques versets avant la lettre d'aujourd'hui, ce qui suit, et c'est Pierre qui parle. « Les païens, dit-il, trouvent étrange que vous, chrétiens, ne couriez plus avec eux vers les mêmes débordements d'inconduite, et ils vous couvrent d'injures. Ils disent du mal de vous en vous traitant de malfaiteurs. » Parce que tout simplement, ils ont choisi de vivre autrement, voilà, à la manière de cette vie d'union que nous a décrit la première lecture. Donc Saint-Pierre les exhorte bien sûr à la fidélité, et à porter courageusement et fièrement le nom de chrétien. Dans notre attente du Saint-Esprit, frères et sœurs, ce modèle de vie vient d'une part nous presser, nous bousculer dans nos habitudes et notre manière d'être chrétien ensemble. Il nous titille et nous oblige d'ailleurs à nous interroger sur les raisons pour lesquelles des baptisés ne viennent plus à nos assemblées. Serait-ce parce que nous avons perdu cette chaleur, cette vie commune, cette sollicitude et cette proximité entre nous, que certains sont partis sur la pointe des pieds pour aller chercher en d'autres lieux. Voilà, cette vie fraternelle et commune qui ne trouve plus chez nous. Il y a lieu vraiment de se poser la question. D'autre part, face à nos sociétés individualistes, frères et sœurs, nous qu'allons-nous leur donner comme réponse? D'ailleurs, l'événement du printemps des catéchumènes que nous vivons et dont nous sommes si fiers, n'est-il pas l'occasion justement d'oser proposer un modèle de vie chrétien basé sur l'Évangile et une vie d'union les uns avec les autres, faite d'attention réciproque, telle que nous le décrit la première lecture? Pour cela, bien sûr, il nous faudra d'abord nous-mêmes nous réapproprier et vivre ce modèle chrétien. Il nous faudra aussi raviver la flamme de la vraie fraternité. Et cela commence ici et maintenant, dans cette église, je dirais avec mon voisin de banc. Oui, nous prions ensemble. Peut-être que tous les dimanches même, nous sommes assis à côté les uns des autres, peut-être à côté des mêmes personnes. Mais est-ce que nous les connaissons bibliquement? Ne serait-ce que leur nom. Regardez votre voisin, demandez-vous, est-ce que vous le connaissez? Et pourtant, nous nous disons frères et sœurs en Jésus-Christ. Frères et sœurs, ce frère qui est à côté de moi, ou cette sœur qui est à côté de moi, n'est-il qu'un visage pour moi? Parce que Saint-Luc nous dit, ils étaient tous d'un même cœur, assidus à la prière. On pourrait même traduire qu'ils étaient d'une seule âme, assidus à la prière. Et cette attitude rappelle que nous sommes le corps du Christ, unis les uns aux autres, engagés ensemble. Une unité d'âme qui fait penser bien sûr au chant polyphonique. Parce que la beauté du chant polyphonique vient de l'accord entre les différentes voix. Nous sommes ces différentes voix. Et l'unanimité des cœurs questionne notre effort d'intégration communautaire, la qualité de notre engagement dans le réel, les uns avec et pour les autres. Parce que, frères et sœurs, il ne s'agit pas de vivre juxtaposés les uns aux autres, ni d'assurer un minimum de présence dans nos communautés. Il s'agit de tendre à une fusion des cœurs en Dieu. Et vous le savez, cela n'est possible que si nous avons un minimum d'intérêt les uns pour les autres. Regardez encore votre voisin ou votre voisine. Demandez-vous, est-ce que je le connais, ce frère ou, ce soeur, ou cette sœur en Christ? Parce que le terme grec qui exprime l'assiduité dans la prière fait allusion bien sûr à la ténacité dans l'action. Donc cette volonté d'être ensemble, de former un seul cœur. Et cette attitude est la clé de voûte de la constitution et du rayonnement de la communauté naissante, ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Parce qu'au moment où Jésus quitte ses disciples, au moment où ses disciples se retrouvent apparemment livrés à eux-mêmes et face à leur diversité qui aurait pu bien vite devenir des divergences, on aurait pu s'attendre à une implosion du groupe des disciples. Et pourtant, ils sont restés soudés. Et il est légitime de penser que c'est la prière assidue, faite d'un seul cœur à ce moment critique, qui devient le moyen et le lieu où toutes les diversités se conjuguent dans l'harmonie et la paix. Elle signifie tout simplement que les apôtres prennent conscience que l'œuvre que Jésus leur confie est vouée à l'échec s'ils n'en font pas de Dieu, le socle. D'ailleurs, l'état déplorable de nos sociétés dites athées vérifie ces faits. On veut vivre sans Dieu et on voit les conséquences. Je dirais, mais aussi pour nous chrétiens, avec nos églises vides. N'est-ce pas peut-être parce que nous avons plus souvent compté sur nos forces, sur notre intelligence, sur notre capacité à organiser, plus que sur Dieu, et que nous l'avons assez moins prié. Parce que la prière a rythmé toute la vie de Jésus et il a prié avec ses disciples. Cette prière, c'est celle qui nous fait tenir dans l'épreuve. Pensez un peu au père Planchard, les mains jointes au milieu de la violence barbare qui s'acharne sur lui. Ou encore à ces martyrs d'Orange sous la Révolution, qui au moment de monter sur l'échafaud, entonnent ensemble un chant dont le refrain est plein d'humour. Voici ce qu'elle chantait. « Bien loin que la guillotine me cause quelques frayeurs, mon Dieu me fait voir en elle un moyen très précieux qui, par une voie nouvelle, me conduit droit aux cieux. » Oui, donc vers la vie éternelle. C'est beau de pouvoir chanter ça ensemble, les cœurs unis. Et il y a bien d'autres circonstances, frères et sœurs, qui nous rappellent que pour nous, chrétiens, la prière est l'essence, le souffle de toute œuvre, de sa qualité et de son efficience. C'est la condition pour être des signes vivants de la présence de Jésus et manifester le nom de Dieu, pour être crédible face aux hommes de notre temps. Mère Teresa disait que un chrétien sans prière est comme une soupe très froide. Seule donc notre volonté à assumer cette attitude et ce modèle de vie que nous propose la première lecture, seule donc cette volonté peut nous permettre de mettre en acte l'exhortation de Saint Pierre qui nous invite à être joyeux même dans la persécution et de choisir d'être toujours chrétien dans la persécution. Parce que c'est le seul moyen par lequel nous sommes certains d'être unis à la gloire du Christ. La première lecture nous dit encore, ils étaient là avec Marie, la mère de Jésus. Frères et sœurs, cette semaine qui nous prépare à la Pentecôte, au cœur du mois de mai, mois consacré à la Vierge Marie, est une belle opportunité d'apprendre la prière auprès de Marie, de travailler à la communion fraternelle et de mettre Jésus au centre de nos vies. Alors demandons à la Vierge Marie de nous y aider et de nous y accompagner. Que Dieu nous écoute et nous exauce, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.